Docteur Benary, bonjour.
Oui, bonjour.
Docteur Benary, vous êtes le directeur de l'INMED, je crois.
C'est ça, oui.
Docteur Benary, qu'est-ce que l'INMED ?
L'INMED est un institut qui est assez unique en son genre, en sens où on travaille bien sûr sur le cerveau et les maladies neurologiques, mais c'est un institut qui se veut à la fois très proche de la partie clinique, c'est-à-dire comprendre pourquoi les maladies arrivent et comment éventuellement il faut les traiter, avec une approche qui est extrêmement après le génome. Vous savez qu'on raconte que toutes les maladies, un peu à tort et à travers, ont des ressources génétiques, ce qui est tout à fait excessif. Mais de toute façon, la question, elle est, pourquoi est-ce que ces maladies, qu'elles soient génétiques ou environnementales, causent des séquelles neurologiques? Et pour comprendre cela, il est absolument essentiel d'étudier comment la maladie est générée. Et ceci, nous le faisons, nous, notre spécialité, c'est l'enregistrement d'activité électrique du cerveau, qu'il soit malade ou pas. Parce que finalement, le cerveau, c'est une machine qui fabrique de l'électricité. Et quand ça ne va pas, l'électricité qui est fabriquée n'est pas tout à fait la bonne. Donc il faut enregistrer cette activité des neurones, voir qu'est-ce qui ne va pas, à l'aide de modèles animaux, voir parfois chez l'homme, et essayer de développer des modèles qui nous permettent de comprendre pourquoi cette activité aberrante est la cause de ces séquelles ou de ces maladies neurologiques. Donc ça, c'est un volet de la recherche. La recherche fondamentale, assez classique, sauf qu'ici, elle est à la fois fondamentale, et à la fois à des implications cliniques ou de santé publique extrêmement importantes. J'en parlerai tout à l'heure. Mais l'INMED, ça n'est pas que ça. L'INMED, c'est aussi un bâtiment qui est unique au monde, dans ce sens où on y trouve une école pour jeunes lycéens. Un petit bâtiment est réservé pour accueillir des classes entières de lycéens qui viennent faire de la recherche pendant 3 jours. Le but n'est pas d'en faire des chercheurs, mais le but est de les amener à être un peu plus curieux, qui est une des maladies de ce siècle dans lesquelles les jeunes ne s'intéressent plus tellement à la beauté de la science et de la nature. Et pour cela, il faut les mettre en contact avec des questions qui les intéressent. Et les résultats sont absolument spectaculaires avec des classes notamment de milieux extrêmement défavorisés qui pendant 3 jours font des manips comme personne au monde n'en fait. Et ça leur ouvre les yeux et c'est un plaisir énorme. Cette structure a été reconnue par le ministère, l'INSERM, etc. Ils ont déjà accueilli plus de 3000 élèves en 2 ans. Et elle va probablement se généraliser, et c'est la première fois au monde qu'il y a un truc de ce goût-là. Ensuite, il y a une école d'été que j'ai créée, moi, pour rapprocher le monde clinique du monde fondamental. C'est une école d'été qui est réservée à des médecins, à des internes en médecine, des chefs de clinique, etc., afin qu'ils comprennent un peu ce que nous faisons, parce que souvent, il y a une espèce de gouffre entre nous et eux. Eux, ils pensent que nous, on ne sert pas à grand-chose, et nous, parfois, on pense que, certes, ils soignent, mais ils ne savent pas très bien pourquoi. Or, la vérité, évidemment, se situe au milieu des deux. Et donc, cette école, qui maintenant est en partie parisienne, puisque j'ai créé un diplôme de neurologie expérimentale à Paris, va bientôt avoir lieu, et elle attire des gens de tous côtés, on leur enseigne des choses, et puis après, ils viennent à Marseille pour faire de l'expérimentation animale, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une crise d'épilepsie, ou qu'est-ce que c'est qu'une telle ou telle maladie, avec des modèles animaux. Et l'INSERM, et l'INMED, c'est pas seulement ça, c'est aussi un espace réservé à des boîtes de biotech, c'est-à-dire des start-up, des jeunes pousses, qui exploitent les découvertes que nous faisons pour les appliquer à la recherche pharmaceutique, clinique, etc. Donc directement rapprocher ces deux mondes qui souvent s'ignorent, la recherche clinique et la recherche fondamentale, parce que je pense qu'il faut les rapprocher. Et c'est aussi quelque chose qui a été créé par Constance Hamon, qui a créé une association qui s'appelle Tous chercheurs, qui inclut non seulement l'école des lycéens, mais aussi un espace d'accueil pour des associations de malades qui viennent ici essayer de comprendre pourquoi ils ont la maladie qu'ils ont, maladie neurologique évidemment. Et donc, ils font des expériences, et ça aussi, c'est extrêmement impressionnant de voir des gens souvent handicapés arriver et travailler dans le bâtiment. Le but de tout ça, c'est quoi? Le but de tout ça, en plus de ce que vous avez vu, c'est une galerie de sculptures, de peintures, un bâtiment construit par un des meilleurs architectes mondiaux. Le but de tout ça, c'est rendre le coin, le truc, j'allais dire, accueillant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, la recherche ne peut pas se désintéresser du citoyen. C'est-à-dire qu'on a une obligation à la fois morale, pratique, de se rapprocher du citoyen et donc d'expliquer qu'est-ce que c'est que la recherche, accueillir des gens, des enfants, des adultes, etc. Et leur expliquer pourquoi la recherche, elle a d'abord un rôle d'apprentissage, de formation, de curiosité. Sans la recherche, un homme, c'est pas tout à fait ce qu'il peut être. Je veux dire, c'est comme si on déciderait que le Louvre n'est pas rentable, on le ferme. Mais la recherche, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que ça a un but appliqué, mais ça n'a pas que ça. Ça a un but beaucoup plus important qui est de comprendre le monde qui nous entoure. Moi, j'appartiens à cette espèce de personne qui pense que la recherche, c'est un peu comme l'art, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est indispensable à notre vie, tout simplement. Elle a des applications, elle a des conséquences, bien sûr, quand elles sont faites intelligemment. Mais c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le gâteau, vraiment. Et en plus, quand on ne comprend pas, on ne va pas guérir. On peut faire des trucs, on peut mettre des poudres de perlimpinpin, parfois ça marche, mais la guérison suppose quand même une compréhension quelque part de comment ça marche. Et ça, c'est notre job. Donc, les médecins, c'est un peu tout ça. Voilà.
Docteur Benary, sur quoi travaillez-vous actuellement ?
Je travaille beaucoup sur le thème qui me passionne le plus en ce moment. On a fait une découverte qui partait d'une question, en fait, qui est très simple. Est-ce que le fœtus est informé que l'accouchement va commencer ? Voilà. Toute simple comme question. Toute simple, pas si simple que ça, mais enfin, voilà la question. On a découvert un mécanisme majeur qui fait que l'hormone que la mère, en principe, libère pour commencer les contractions utérines, et donc l'accouchement, cette hormone rentre dans le cerveau du fœtus et le prépare à l'accouchement, littéralement à l'anesthésion, un mécanisme que nous avons décrit. Donc l'oxytocine, c'est l'un de cette hormone, ne sert pas qu'à faire les contractions, elle sert aussi à protéger le fœtus des dangers qui pourraient intervenir pendant l'accouchement, notamment en termes d'absence d'oxygénation. Et vous voyez, ça c'est une question extrêmement fondamentale, les applications, elles sont majeures. Qu'est-ce que fait une femme quand elle commence ses contractions un tout petit peu tôt et qu'elle risque d'avoir un prématuré ? Bon, on lui donne une molécule qui bloque ses récepteurs. Bon, nous sommes en train de dire que c'est une erreur, parce qu'il y a cette hormone a un effet protecteur sur le cerveau du fœtus, et ce n'est pas une très bonne idée de le bloquer. Nous pensons qu'il faut essayer d'autres approches qui permettent de ne pas bloquer ce récepteur au niveau utérin, mais pas au niveau du cerveau du fœtus. Parce que c'est un mécanisme absolument important. Et là, en ce moment, je travaille beaucoup sur essayer de comprendre tous les problèmes liés à la césarienne, aux interruptions de grossesse, parce que je pense que le cerveau en souffre. Et surtout, j'ai commencé un projet qui consiste à se poser une question très simple sur laquelle il n'y a aucune donnée expérimentale. On estime qu'entre 7 et 10% des femmes enceintes prennent des molécules antidépressives. Pour ça, Valium, parfois cannabis. On ne sait pas les effets que ça a sur le cerveau. Nous, on a le moyen d'étudier. Et c'est ce que je suis en train de travailler. Essayer de comprendre si elles ne font pas des. Elles ne posent pas des problèmes pour la construction du cerveau du fœtus avec des conséquences après qui peuvent s'avérer catastrophiques. Et c'est vrai de ça, c'est vrai des molécules thérapeutiques. Par exemple, une femme enceinte qui est épileptique, on leur donne des molécules, et là il y a eu beaucoup de procès récemment, parce que d'autres de ces molécules sont avérées étant tératogènes, c'est-à-dire cause de séquelles neurologiques. Et bien nous avons montré que ces deux molécules-là, à des concentrations qui sont équivalentes à celles qu'il y aurait dans le sang de la femme enceinte si elle les prenait, effectivement étaient tératogènes, et par un mécanisme que nous commençons à comprendre. Donc là aussi c'est pareil. La question au départ, elle est fondamentale. Comment le cerveau se construit, comment l'accouchement se fait, les implications, elles viennent tout de suite.
Docteur Benary, vous êtes en train de dire qu'en fin de compte, bien accoucher, c'est peut-être être en bonne santé dans le futur, avoir une bonne intelligence et être adapté.
En 1986, j'ai succédé à Alexandre Minkowski, qui était le fameux mandarin pieds nus, qui a passé sa vie à défendre. Il a été à l'origine de pas mal de lois liées à ce que la femme enceinte ne doit pas faire vers la fin, pourquoi il faut s'arrêter avant, etc. etc. Et en fait, l'idée est la suivante, c'est que ce que je ne suis pas en train de dire qu'il faut se mettre dans un monastère quand on est enceinte et rien faire, c'est pas ça. Mais je suis en train de dire quand même que ce domaine est un domaine en friche, sur lequel il n'y a pratiquement personne qui travaille, alors que l'on peut faire des choses. Et deuxièmement, c'est que le cerveau du fœtus, ce n'est pas le cerveau de la mère en plus petit. Un cerveau immature, c'est pas un petit cerveau adulte. C'est un cerveau qui a des propriétés particulières que la mère n'a pas. On a montré par exemple des réactions. Pour prendre un seul exemple, j'ai prouvé il y a quelques années qu'une femme enceinte qui prend du Valium, ça va endormir son cerveau et éveiller le cerveau du fœtus. L'inverse, exactement l'inverse. Parce que les réactions moléculaires qui se passent dans les deux cas sont inverses. Donc en fait, c'est un cerveau qui a des lois particulières, universelles d'ailleurs. Et donc on ne peut pas dire, ah ben oui, elle le prend, mais finalement ça fera du bien aussi à l'enfant parce que c'est la même règle. Pas du tout. Le fœtus a ses propres règles qu'il faut étudier et comprendre. Ça veut dire que c'est une période extrêmement délicate pour le cerveau du fœtus et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut faire attention. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a encore trop d'autorisations de mise sur le marché de molécules qui sont testées chez l'adulte. Ben, adulte, moins ça va. Une femme enceinte, ça va moins. Parce que justement, il y a un autre, entre guillemets, objet qui a des règles qui sont très différentes du mien.
Et docteur, comment faire alors ? Poursuivre vos recherches et les amplifier ?
Déjà poursuivre les recherches, et c'est pas très difficile encore une fois. Par exemple, si on me dit, est-ce que tu peux me prouver que le cannabis, je prends cet exemple parce que c'est un problème majeur de santé publique, notamment chez les jeunes femmes, est-ce que le cannabis pendant la grossesse est dangereux ? Je sais comment le prouver ou pas. Ça, je sais faire. C'est pas un truc extrêmement difficile à prouver ou au contraire, à quelle concentration, etc. Mais pour ça, il faut poursuivre la recherche fondamentale, c'est tout. Il faut essayer de voir. Je veux dire, moi je dis souvent, je me pose des questions auxquelles j'espère un jour apporter une réponse. Les autres, je laisse aux théologiens.
Docteur Benary, pensez-vous que les maladies neurologiques de l'adulte sont la résultante de peut-être de problèmes lors de l'accouchement ou avant l'accouchement ?
Il y a des domaines dans lesquels on a la preuve contraignante que c'est le cas. L'exemple le plus classique, ce sont des accouchements difficiles, de type anoxoïschémie, complications, etc. Tout se passe très bien, et puis 20 ans plus tard, le gamin adulte est épileptique. On a énormément, enfin, on a pas mal d'exemples de ce genre-là. Et pendant toute cette période qui sépare phase 1 de phase 2, il n'y avait pas de séquelles évidentes, c'est-à-dire que ça s'est venu d'un coup. Mais en fait, c'était profondément enfoui dans son cerveau. Et on commence à comprendre la relation de ces deux choses-là. Et c'est vrai pour les épilepsies, c'est vrai pour d'autres maladies. Ben, par exemple, l'autisme, il apparaît souvent dans un milieu dans lequel, auparavant, on avait l'impression que rien ne se passait. Et pourtant, la signature est là. Sinon, il n'y a pas de raison que ça apparaît. Schizophrénie, c'est pareil. Pas mal de maladies, c'est pareil. Même la maladie de Parkinson. Pourquoi un joueur commence à trembler alors que la veille, il était bien? Donc, la question de la latence entre l'origine d'insulte et l'expression, et son expression, elle n'est pas une question simple, très compliquée. Mais elle est abordable. C'est-à-dire qu'on peut commencer à dire, voilà, est-ce que dans ce modèle animal, je peux provoquer la maladie dans X temps et entre-temps déjà voir une signature de quelque chose qui est ce qu'on appelle sous-clinique. C'est-à-dire qu'elle est là, la signature. Elle n'est pas clinique, l'animal va bien, mais on sait que dans quelques temps, il n'ira pas bien. Et c'est là, c'est ça qu'il faut identifier. Cette signature-là est extrêmement importante à identifier parce que du coup, on va savoir quelles malformations se font et quand. Et dans le cerveau du fœtus, il y a ce qu'on appelle des malformations par... Parce que les neurones, quand le cortex se construit, je travaille beaucoup là-dessus, quand le cerveau se construit, les neurones migrent. Ils vont d'une région A à une région B. Ils doivent impérativement arriver à la région B qui leur est programmée. S'ils n'y arrivent pas, ils forment des masses de neurones déplacées. Et ces masses de neurones déplacées sont la source d'épilepsie et de maladies extrêmement graves, dyslexie, etc. On commence à aller voir une imagerie chez l'homme. Donc chez l'enfant, on fait de l'imagerie, on arrive à les voir. Et on commence à aller voir chez l'animal parce qu'on peut enregistrer ces neurones, les reproduire avec les mutations humaines, voir les neurones qui ne migrent pas, les enregistrer et voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc du coup, on peut avoir des neurones qui n'ont pas migré. On peut essayer de savoir quelles sont leurs propriétés aberrantes. Et nous sommes en train de découvrir que ces neurones qui ne migrent pas restent figés à l'état immature dans le cerveau adulte. Nous avons un cerveau adulte dans lequel il y a des neurones qui n'ont pas mûri. Bon, parce qu'ils ne sont pas allés là où ils devaient aller. Et ces neurones qui n'ont pas mûri ont des propriétés électriques aberrantes. D'où, c'est peut-être pas étonnant que les molécules que l'on donne, qu'on a développées pour un cerveau adulte, sont souvent inefficaces. Évidemment, si ces neurones déplacés ont des protéines immatures, on perd notre temps. C'est pour ça que c'est important de le comprendre. C'est pour ça aussi que malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'investissement en recherche dans ce domaine. Parce qu'il faut comprendre que la recherche de plus en plus se veut appliquer, parce que les financements que nous recevons viennent de sources, qu'elles soient gouvernementales ou européennes, etc., qui favorisent énormément ce qui est, entre guillemets, bénéfique. Je vais guérir la maladie X, la maladie Y, la maladie Z. Et dans ce domaine-là, la pauvreté de ce qui est fait sur le fœtus à l'enfant est absolument scandaleuse. Il n'y a rien. Un peu compliqué, pas grand-chose. Parce que justement, le problème n'est pas abordé sous cet angle-là. Il y a infiniment moins d'argent sur l'anoxie fœtale, par exemple, qui est la cause majeure de séquelles pendant l'accouchement, qu'il y en a sur les maladies que vous avez en tête. Parce que c'est comme ça, parce que les boîtes pharmaceutiques aussi ne s'y intéressent pas. Ce sont des sujets qu'elles ont un peu la trouille d'aborder, parce que ça touche deux organismes déjà, la mère et l'enfant. Ensuite, c'est compliqué sur le plan de l'évaluation, etc. Donc, on est obligé de plus en plus de chercher et d'avoir recours à des fondations ou à des sources caritatives diverses. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque en France. C'est un gros problème, ça.
Docteur, je crois que vous avez l'intention de former un institut, justement.
Oui, c'est pas un institut, mais j'aimerais bien créer une fondation. En fait, le problème est relativement simple. J'aimerais trouver des sociétés, des donateurs, etc., qui seraient capables de s'intéresser au sujet. Il y en a quelques-uns, c'est évident, simplement il faut les toucher. Afin de créer une fondation qui serait vraiment actée pour développer les recherches dans le domaine de la protection du fœtus et du cerveau du bébé, notamment du fœtus pendant la grossesse. Donc inciter les chercheurs à travailler là-dessus. Quelles molécules il ne faut pas prendre, pourquoi elles font ce qu'elles font, quelles insultes ou agressions peuvent apparaître in utero suite à des dégâts qui soient pour une cause génétique ou une cause environnementale. Je suis en train de travailler par exemple sur l'autisme, c'est de comprendre si l'autisme apparaîtra beaucoup plus tôt à cause de malformations du même type. Il y a un travail qui vient de sortir qui montre que la dyslexie, dont une partie pourrait être génétique, est associée à des malformations du même type. C'est un neurone qui ne migre pas, qui se trouve là où ils ne doivent pas être. Donc vous voyez, c'est un champ extrêmement vaste. Mais ça nécessite des fonds et ces fonds, en grande partie, surtout si ça arrive d'une partie, l'ambition que je pourrais avoir, ce n'est pas seulement la recherche, mais c'est aussi la publicité, entre guillemets, c'est-à-dire informer les femmes, attention, ne faites pas ça, parce que ça va donner ça. En dehors de cocaïne, alcool, etc., sur lequel maintenant tout le monde est d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Donc ceci impliquerait une fondation qui travaillait sur les deux, c'est-à-dire à la fois sur le côté, ce que les Américains appellent public health, c'est-à-dire information de... Hein, et sur le côté fondamental et appliqué. Ça, c'est possible. Mais il faut des moyens, et en France, ce n'est pas les États-Unis, il n'y a pas de moyens.
Docteur, où peut-on vous contacter éventuellement si un donateur ou quelqu'un qui est intéressé par ce que vous venez de dire souhaite vous rencontrer et peut-être vous parler?
Ah ben pour l'instant, je travaille à l'INUMED, il n'y a pas de problème, on peut contacter ici. D'ailleurs, à un moment donné, le Rotary m'a aidé, il y a un certain nombre de personnalités qui commencent à envisager de faire quelque chose. Le problème, c'est que, en plus, c'est que si j'ai arrêté de faire de la recherche pendant un an et je fais le tour de tout le monde, j'y arriverai. Le problème, c'est que j'ai voilà, pas être four au moulin. Et donc, il faudrait que ça se passe de façon à ce que toute la partie administrative et financière soit réglée autrement que par mes interventions, parce que vraiment, on est en train de faire la découverte absolument majeure. Je crois que ce labo n'a jamais été aussi productif maintenant. On en a encore une qui va bientôt sortir, qui va révolutionner l'approche que nous avons sur comment traiter les fœtus, enfin les bébés.
J'espère que vous nous en parlerez dans pas longtemps. Nous allons donner le numéro de téléphone de l'INMAD si cela ne nous dérange pas.
Oui, bien sûr. 04 91 82 81 03, ma secrétaire, Janine.
Et vous êtes le docteur Benhari. Merci, docteur.
Merci beaucoup.